On continue dans l'essentiel, on va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour,
Niagale. Bonjour.
Face à vous, Anne Corpé, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, les rebelles mettent le cap vers le sud en Syrie. Après la prise d'Alep, la ville d'Hama est le théâtre d'affrontements. Objectif Damas et le pouvoir de Bachar al-Assad. Et puis haussement de sourcils aux États-Unis. Joe Biden gracie son fils Hunter, condamné mais dans l'attente de sa sentence pour détention illégale d'armes à feu et fraude fiscale. Duplicité du président sortant ou abaissement généralisé de la morale en politique sous l'effet du népotisme dont fait preuve Donald Trump dans ses nominations. On vous donnera notre avis dans un instant. Le conflit était gelé depuis 2016. La Syrie est donc plongée à nouveau dans l'effervescence des combats. En moins d'une semaine, les rebelles de la province d'Idlib ont pris Alep, la deuxième ville syrienne. Ils menacent Hama en direction du sud. Où s'arrêteront-ils? Le pouvoir de Bachar al-Assad, aidé par la Russie, a bombardé leur bastion du nord ce lundi. Jean Barrère.
Ces images ont été filmées peu de temps après des frappes de l'aviation syrienne et russe. Plusieurs immeubles en proie aux flammes viennent d'être touchés. Les casques blancs syriens tentent de venir en aide aux victimes.
Derrière moi se trouvent les destructions massives provoquées par les bombardements de cette zone. Ce quartier est résidentiel et les forces du régime l'ont délibérément ciblé avec des frappes aériennes directes. Cela a fait plusieurs victimes. Nos équipes travaillent toujours pour rechercher les personnes piégées, pour les secourir et les transporter au point médical le plus proche.
C'est la réponse du régime de Bachar al-Assad à la progression fulgurante des rebelles dans le nord-ouest du pays, menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Après la prise de la ville d'Alep et celle de dizaines de localités, les rebelles ont pris possession de l'aéroport de la ville où se trouvaient des hélicoptères et avions du régime syrien.
L'aéroport international d'Alep a été libéré des militaires du régime et est restitué à la propriété révolutionnaire de notre peuple et des familles des zones libérées. Si Dieu le veut, nous continuerons et entrerons dans Damas et libérerons le reste de la Syrie.
Ils se dirigent désormais vers le sud et auraient atteint la ville d'Hama. Les islamistes ont aussi pris la ville de Tal Rifat, proche de la frontière turque, jusqu'alors aux mains des forces kurdes. Des attaques dénoncées par ces manifestants kurdes réunis en nombre.
Nos habitants de la région d'Al-Shaba sont dans les rues depuis hier après-midi et sont attaqués. Nous espérons que tous ceux qui entendent notre voix nous écouteront et exigeons l'intervention des grandes puissances pour mettre fin à ces attaques.
Des manifestants ont aussi battu le pavé dans le sud du pays, mais cette fois-ci en soutien aux rebelles. Ils dénoncent eux aussi le gouvernement de Bachar al-Assad et soutiennent la prise d'Alep.
Niagale Bagayoko, ce à quoi on assiste, c'est une offensive manifestement bien préparée. Sa fulgurance est due à l'affaiblissement du régime Assad et de ses alliés ou bien à une aide venue de l'extérieur?
Elle est due, à mon avis, à plusieurs facteurs. Bien entendu, il y a le rôle de l'Iran et de la Russie. Mais il faut regarder aussi
À leur effacement relatif, peut-être, justement, hein, en soutien
oui,
de Bachar.
Oui, mais il y a aussi les recompositions qui sont imputables à ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hezbollah, notamment, et l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des interventions israéliennes qui ont visé à couper les approvisionnements du Hezbollah vers la Syrie et à mettre hors d'état de nuire les soutiens iraniens présents en Syrie. Et c'est également l'influence de ces choix de la part d'Israël qui influe aujourd'hui. Alors, il y a un certain effacement de la Russie et de l'Iran, mais qui reste quand même très présent. Ce à quoi on assiste quand même, c'est à l'affirmation du rôle historique des trois empires ottomans d'un côté, avec la Turquie qui joue un rôle aussi, également perse et russe dans cette région. Le rôle de la Jordanie n'est pas négligeable non plus. Ouais. Il y a vraiment différents rapports de forces internationaux qui se mettent en place, mais il y a des logiques locales aussi dont on va reparler, je pense.
Est-ce Israël, Anne Corpé, qui a contribué à bouleverser l'équilibre des forces en Syrie et à permettre donc aux rebelles, contre toute attente, cette avancée en direction de Damas.
Ça a en tout cas créé une fenêtre d'opportunité. Voilà. Mais cette offensive, elle a une telle ampleur qu'elle était préparée depuis des mois. Faut savoir que ces rebelles islamistes de la région d'Idlib sont croupissent dans des camps de déplacés depuis des années.
Et on suit bien un tremblement de terre, qui plus est.
En plus, et ils n'avaient qu'un rêve, c'était de retourner, notamment dans cette ville d'Alep, dont beaucoup des combattants qui ont mené l'offensive sont issus. Alors, la Turquie savait que cette offensive aurait lieu, le régime syrien lui-même le savait, puisque d'ailleurs, les bombardements s'étaient intensifiés ces derniers temps sur cette région d'Idlib, de manière sans doute à empêcher cette offensive. Ça a eu l'effet absolument contraire. Et d'ailleurs, les rebelles de ce groupe HTS ont présenté leur offensive comme une opération de défense, en réalité, contre ces bombardements menés par le régime syrien.
Oui.
Ils sont partis. Ce qui a frappé, en fait, tout le monde, et ce qui a surpris tout le monde, c'est l'efficacité de cette offensive, le fait qu'elle aille jusqu'à Alep, et ça montre surtout l'état de décrépitude de l'armée régulière syrienne, composée de 20 à 30 000 hommes, d'après les experts, peu équipés, très démotivés, et il y a eu quasiment une déroute, un abandon de blindés. Cet aéroport qu'on a vu dans le sujet avait été défendu pendant des mois et des mois auparavant par l'armée syrienne. Donc là, c'est la débandade absolue. Mais enfin, les troupes rebelles qui maintenant avancent plus vers Hama et vers Damas, là, commence à se heurter à une résistance plus forte, parce qu'il est évident que le régime syrien sait que si Damas tombe, c'en est fini pour Bachar al-Assad. Et ça, ni les Russes ni les Iraniens ne sont prêts à l'abandonner.
Il faut parier effectivement sur une résistance accrue à l'approche de Damas, d'après vous, Niagale Bagayoko ?
Oui, comme toujours dans ce type de conflit, ce sont les capitales en général qui résistent, alors que les zones plus périphériques sont davantage accessibles au mouvement qui conteste le pouvoir.
Il y a aussi vers l'attaquer des bases russes, stratégiques.
Qui sont stratégiques, absolument. Et d'une manière générale, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à la sociologie qui est quand même très diversifiée de ces différents mouvements, parce que le HTS est un mouvement islamiste, en effet, mais qui se distingue de la mouvence Al-Qaïda et de la mouvance État islamique, alors même que son chef est issu d'Al-Qaïda au départ. Ça montre qu'en Syrie, on a aussi ce mouvement de sissiparité des différents mouvements djihadistes que l'on constate absolument partout. Et il y a également tous ces groupes rebelles qui sont également très composites. Et donc, ça montre à quel point la résistance qui s'est construite contre Bachar el-Assad est multiforme.
On va peut-être revoir la carte, puisqu'on va voir, c'est un jeu à trois acteurs avec ce qu'il est convenu désormais d'appeler la Syrie utile détenue par Bachar el-Assad grâce à ses soutiens russes et iraniens, Hezbollah essentiellement, mais également, donc, on va le voir peut-être, au nord-ouest, de vastes zones qui sont aujourd'hui aux mains de ces mouvements islamistes qui fondent aujourd'hui sur Hama, en vert. Et puis en jaune, au nord-est, eh bien là, ce sont les zones kurdes. Elles sont aussi dans le viseur. Alors, on dit que la Turquie soutiendrait les rebelles d'Alep. Est-ce qu'elle aurait dans le viseur ces zones kurdes dont on sait auxquelles elle voue en tout cas une hostilité ancienne?
Alors, là, effectivement, c'est ce que Moscou et Damas disent. Ils rendent responsable la Turquie dans cette offensive. Mais enfin, ce qui est très intéressant de noter, c'est que quand ces rebelles islamistes sont arrivés à Alep, ils n'ont pas affronté les combattants kurdes du FDS qui se trouvaient sur place. Ils leur ont dit « Prenez vos armes, vos femmes, vos enfants, quittez la zone et rejoignez votre fief dans le nord-est, en zone
sur la carte. » Parce que des Kurdes se trouvent dans les faubourgs nord d'Alep. Hein.
C'est cela. Ouais. Et les rebelles islamistes du HTS leur ont proposé d'évacuer par des couloirs sécurisés. Ce qui prouve que ces rebelles islamistes sont quand même indépendants d'Ankara, en tout cas marquent leur autonomie vis-à-vis d'Ankara, parce que ce n'est pas du tout ce que souhaitent les Turcs de voir arriver de nouvelles forces kurdes dans ce nord-est syrien. Oui. Et d'ailleurs, les groupes rebelles syriens pro-turcs sont intervenus, ont rejoint...
Ou leur couper la route.
Voilà, sont intervenus, non pas dès le départ de l'offensive, mais quelques jours plus tard, et notamment... pour couper la route, à ces combattants kurdes qui ralliaient le nord-est syrien.
D'autant que des soldats américains soutiennent ces FDS, y a-t-il là le risque d'un embrasement, puisque derrière, on peut considérer ces groupes comme quasiment des proxys des États-Unis d'un côté, de la Turquie de l'autre, Niagale Bagayoko?
C'est le risque qui est brandi depuis le 7 octobre, hein, finalement, hein, puisqu'il s'est produit entre Israël et le Hamas. C'est le risque d'un embrasement régional, parce qu'en effet... Tous ces mouvements sont à la fois liés entre eux et liés à des puissances étrangères dont on voit très clairement le jeu, effectivement, sur cette carte. Et même si l'offensive ne semble pas de nature à menacer le régime immédiatement, cela crée des recompositions évidentes dans la zone.
Alors, Bachar el-Assad dénonce une tentative de redessiner la carte du Moyen-Orient conformément, dit-il, aux intérêts de l'Amérique et de l'Occident. Or, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni appellent de leur côté à une désescalade. Alors, est-ce vraiment leur intérêt, Anne Corpet, que les rebelles renversent le régime Assad, comme semblent les en accuser, en tout cas aujourd'hui, hein, l'homme fort de Damas?
Oui, je crois que l'intérêt, pour l'instant, des puissances occidentales, c'est d'éviter tout basculement des plaques tectoniques. Et finalement,
il vaut mieux un mal que l'on connaît à Damas.
Ces puissances commençaient à s'accommoder, en quelque sorte, du statut Tuco actuel. Le retour progressif de Bachar al-Assad sur la scène internationale auprès de ses amis de la Ligue arabe n'a pas été considéré comme un scandale énorme. On n'a pas vu les chancelleries occidentales pousser des cris à ce moment-là. Et je crois que Washington, comme l'Union européenne, sont déjà assez préoccupés par la situation au Proche-Orient et par celle, évidemment, en Ukraine, pour se satisfaire d'un nouveau foyer brûlant en Syrie, même si c'est pour voir un dictateur tomber. Parce que si c'est pour voir à la place des groupes de type islamiste, qui, dans le cas du DHS, ouais, a salué quand même les attentats atroces du 7 octobre, je ne pense pas que cela les satisfasse.
Et Israël, alors, est-ce qu'Israël a joué le jeu du renversement d'Assad? On sait qu'Israël pilonne régulièrement des positions du Hezbollah en Syrie et parfois même l'armée syrienne, des convois de l'armée syrienne elle-même. Niagale Bagayoko, y a-t-il eu une volonté délibérée d'Israël d'affaiblir le régime syrien au point peut-être de permettre son renversement?
De l'affaiblir sans doute, de le renverser je ne sais pas, parce que ça rajouterait encore un nouveau front pour Israël. Mais je pense qu'Israël a surtout perçu les moyens d'affaiblir l'Iran, hein, qui est vraiment sa cible principale dans la région. Et ce sont les proxys de l'Iran qui ont été visés dans les liens qu'ils entretiennent, notamment le Hezbollah avec les milices chiites que l'on trouve en Syrie.
Quitte pour Israël à se retrouver avec un djihadiste à ses portes.
Absolument. Mais quand on parlait de cette question de la reconfiguration régionale, c'est en effet le plan qui a été mis en place, en avant, par Netanyahou et le gouvernement israélien plus largement. Mais en Syrie, il me semble pas que c'était un front prioritaire, c'était un front secondaire, mais dont on voit qu'il est très difficile à maîtriser. Et d'une manière générale, on voit à quel point les puissances internationales ont du mal, comme partout, à maîtriser les logiques beaucoup plus locales, notamment le fait que le HTS n'est pas assimilable à Al-Qaïda ou à l'État islamique dans le rapport qu'il entretient aux civils. C'est extrêmement important, notamment, et ou aux autres minorités d'ailleurs, hein, même aux minorités chrétiennes, etc. Ils sont dans une approche certes extrêmement rigoriste, mais quand même plus ouverte qu'Al-Qaïda et l'État islamique.
Oui, et pas forcément d'objectif non plus extraterritorial concernant la Syrie.
Pas d'objectif extraterritorial, exactement.
On parlait des puissances étrangères, on évoquait celles qui, côté occidental, en tout cas, ont longtemps combattu, Bachar el-Assad. Quid des soutiens du régime syrien? Vladimir Poutine, Massoud Pezeshkian, les présidents iraniens et russes se sont entretenus. Ils ont affirmé solidairement leur soutien conditionnel à Bachar el-Assad. Mais que peuvent aujourd'hui ces alliés de Damas?
C'est sûr qu'ils sont bien plus faibles qu'en 2015-2016, quand ils sont venus massivement au secours du régime. Parce que sans la Russie, sans l'Iran, Bachar el-Assad serait tombé à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, on l'a dit, le Hezbollah est très affaibli. Israël a frappé 150 fois depuis janvier dernier sur des cibles du Hezbollah en Syrie. Donc il n'a plus sur place les structures, d'autant que la route est coupée, comme le rappelait Niagale, avec le Liban. Les Iraniens, effectivement, affirment qu'ils vont continuer à soutenir Bachar el-Assad. Hier, le chef de la diplomatie iranienne était à Damas, mais il n'a fait aucune annonce spectaculaire. Il a dit « nos conseillers militaires vont continuer à soutenir le régime ». Bon, les conseillers militaires iraniens sont sur place depuis longtemps, années, ce n'est pas nouveau. Il n'a même pas annoncé qu'ils seraient, par exemple, plus nombreux. Côté russe, beaucoup des pilotes qui conduisaient des raids
en 2015-2016,
en Syrie, sont maintenant rentrés en Russie pour mener des raids en Ukraine. Les munitions dont dispose la Russie sont avant tout dirigées vers le terrain ukrainien, où se joue une espèce de course contre la montre avant l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche. Donc, il y a un soutien officiel. Là encore, le porte-parole du Kremlin a dit ce matin, bien sûr, nous continuerons à soutenir Bachar el-Assad, mais il est évident qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'en 2015-2016.
Défendre Assad, ce n'est plus la priorité, ni pour Téhéran, ni pour Moscou. Téhéran, qui est plutôt occupé à sécuriser son propre avenir, et la Russie, parce que l'avenir existentiel de la Russie à court terme, c'est l'Ukraine, c'est pas la Syrie, Niagale Bagayoko.
Oui, absolument. Il y a eu cette modification géopolitique. Cela dit, il ne faut pas mésestimer la volonté de ces acteurs russes et iraniens de s'opposer à un camp occidental qui reste quand même leur cible stratégique au niveau mondial.
Ouais.
Et ils estiment que Bachar el-Assad fait partie de ce front anti-Occident et qu'il y a contribué de manière assez efficace. Donc, ils ont moins de moyens, mais moins de volonté, je ne sais pas, ce sera à voir.
Sans compter que la Syrie, c'est quand même un point
verrou,
important sur le plan stratégique.
L'accès à la Méditerranée, par
exemple. Donc, il est certain que l'Iran et la Russie feront quand même tout pour empêcher la chute. De Bachar el-Assad.
D'autant que les forces navales russes en mer Noire ont été sévèrement éprouvées par la guerre en Ukraine.
Absolument. Donc la base de l'attaquer est très importante.
Il avait juré, ses grands dieux, qu'on ne l'y prendrait pas. Joe Biden a gracié hier son fils Hunter, déjà condamné dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale, mais qui attendait toujours de connaître sa peine. Mathieu Babin, à Washington, c'est une surprise, ce revirement de Joe Biden?
Oui, c'est une surprise parce que ça tranche quand même franchement avec les déclarations antérieures de Joe Biden qui, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, célébrait l'indépendance de la justice et renouvelait sa confiance en ce système judiciaire américain qui, c'est vrai, était quand même très occupé ces derniers temps à traquer son rival politique, le rival politique de Joe Biden, Donald Trump évidemment. Et c'est ça qui dérange les démocrates ici aujourd'hui. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, a été interrogée des dizaines de fois sur l'hypothèse d'une grâce accordée par Joe Biden à son fils. Elle répondait systématiquement avec un air d'ailleurs légèrement agacé que ce n'était quand même pas le genre du président d'utiliser sa fonction pour favoriser sa famille. Alors oui, il y a une surprise effectivement, mais il y a surtout un profond malaise. Au point que plusieurs élus démocrates se sont clairement désolidarisés de Joe Biden dans ce dossier avec des formules du type « je comprends le père mais je ne comprends pas le président ». Et puis il y a aussi un élément dont les républicains se sont déjà emparés. Hunter Biden ne risquait pas grand-chose dans le fond. Au pire, du sursis, peut-être même même pas du sursis, pour des délits somme toute relativement mineurs, en tout cas pour un primo-contrevenant. Seulement voilà, la grâce présidentielle couvre l'intégralité des crimes et délits sur les 10 dernières années. Ce qui fait évidemment dire aux détracteurs de Joe Biden qu'il s'agit en réalité d'une manœuvre qui vise à protéger son fils de délits ou de crimes qui finiront par être connus, mais qui ne sont pas encore suffisamment instruits. En clair, cette grâce n'est pas une bonne nouvelle que pour Hunter Biden, mais également pour les hordes de théoriciens du complot qui vont évidemment s'en donner à cœur joie à partir de maintenant. On est à Washington.
Ouais, une décision qui arrive, il faut le dire, Mathieu, alors que Donald Trump lui multiplie les nominations surprenantes jusqu'au sein même de sa propre famille.
Oui, alors surprenantes, ces nominations, c'est tout à fait relatif en réalité. Vous avez raison, c'est surprenant si on s'en tient aux prédictions qui avaient été faites pendant la campagne et qui annonçaient l'arrivée d'une administration trumpiste plus professionnelle, plus aguerrie, plus légitime que la précédente. On s'est beaucoup dit que Donald Trump avait appris de ses erreurs. Maintenant, on parle bien de Donald Trump quand même, le président américain qui fait de la politique comme personne avant lui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce à quoi le 47e président des États-Unis est particulièrement attaché, c'est la loyauté, ça c'est une certitude. Dans l'univers de Donald Trump, la compétence lui est réservée en quelque sorte. Et on découvre donc que ce avec quoi il veut rompre, c'est d'avoir à gérer des désaccords avec ses subordonnés. Il en garde un très mauvais souvenir. Avec les beaux-pères de ses filles, il limite quand même largement les risques, à peu près autant qu'avec ses filles en réalité. Mais vous savez, au moment où on se parle, la colonne vertébrale de l'administration à venir est déjà réunie à Mar-a-Lago, en Floride, dans la résidence privée de Donald Trump, là où la campagne a été préparée et là où le clan Trump a élu domicile, dans ce qui est concrètement l'antichambre de la prochaine Maison-Blanche, en quelque sorte. Là-bas, autour de la table, vous trouvez les fils, les filles, les gendres, et puis le nouveau meilleur ami de Donald Trump, Elon Musk, évidemment.
Merci Mathieu Mabin, direct de Washington. Anne Corpet, vous qui avez été aussi correspondante pour RFI à Washington, ce népotisme de Donald Trump, c'est ce qui permet aujourd'hui à Joe Biden de trouver les ressorts pour gracier son fils, lui qui se l'était publiquement interdit.
Oui, c'est un peu ce qu'il dit. Il dit que son fils est victime d'une vendetta politique. Et c'est vrai qu'il y a des nominations annoncées par Donald Trump qui font un peu peur, comme celle de Kash Patel à la tête du FBI et qui a promis de s'en prendre aux ennemis de Donald Trump.
La chasse aux sorcières, ce n'est pas celle qu'a subie Donald Trump, c'est celle qu'il promet à ses adversaires aujourd'hui.
Sur le plan humain, on peut comprendre la décision de Joe Biden, mais quand même l'ampleur de la grâce accordée, qui porte donc sur les 10 dernières années, ça c'est quelque chose de relativement inédit. Bien sûr, d'autres présidents avaient accordé des grâces par le passé. Donald Trump lui-même, d'ailleurs, on le voyait à l'image, au père de Jared Kushner, son gendre, qui avait été condamné pour fraude fiscale. Mais c'est une personne qui avait déjà fait purger sa peine en prison. D'ailleurs, c'est notre prochain ambassadeur en France. Et là, on a une grâce qui est accordée avant même que la peine soit prononcée et qui couvre des délits dont il n'est pas encore question. Donc ça, c'est un...
Oui, on se dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu du côté des Républicains.
Voilà, ça va alimenter les discours complotistes qui ont déjà alimenté tout le mandat de Joe Biden. Mais aussi, sur le plan politique, c'est très dur pour le camp démocrate, parce que comment après continuer à défendre l'état de droit, comment pourfendre les décisions de Donald Trump et comment dire après, voyez, Donald Trump agit pour défendre ses intérêts propres et pas ceux de la nation, ça va être compliqué.
On assiste, Niagale Bagayoko, à un abaissement des critères moraux dans la politique américaine sous l'effet du trumpisme.
Alors moi, je ne suis pas sûre que ce soit uniquement sous l'effet du trumpisme. C'est ça qui est extrêmement préoccupant dans cette décision-là. C'est-à-dire qu'il y a les arguments quand même utilisés par Joe Biden sont exactement ceux utilisés par Donald Trump qui dénonce une politisation, une instrumentalisation de la justice. Et on s'aperçoit que d'une manière générale, on considère que les principes juridiques, légaux peuvent être utilisés à géométrie variable. Et c'est en général le début du tombeau, justement, de l'état de droit. Mmh. Mais on voit que c'est pour ça qu'à mon avis, ce n'est pas uniquement le fait du trumpisme. Par exemple, l'autorisation par l'administration Biden récente d'utiliser des mines antipersonnelles en Ukraine va à l'encontre des principes du droit international.
Oui. Alors certes,
les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention contre les mines interpersonnelles, antipersonnelles, mais en revanche, c'était le cas de l'Ukraine. Mmh. Donc, on voit que d'une manière générale, les principes de droit, aussi bien internes qu'externes, sont piétinés par tous les acteurs, par tous les dirigeants, alors qu'un principe, c'est un principe, il est par définition non négociable, non plastique, à la différence d'un intérêt. Et effectivement, les démocrates, aujourd'hui, vont avoir beaucoup de mal à justifier une telle décision et à accepter, sans maudire, oui, en fait, hein, l'abandon des poursuites contre Donald Trump, qu'ils accusaient exactement des mêmes travers que ceux que l'on peut reprocher aujourd'hui à Joe Biden.
Oui, c'est une pierre dans le jardin démocrate avant une refondation que si ce parti appelle de ses voeux. On verra si elle se produit, à quelles conditions. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Anne Corpet, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 4 minutes pour la suite de l'info dans l'essentiel.